Voilà, encore bonjour à celles et ceux que je n'ai pas vus de près. On se verra après. C'est super. Merci beaucoup pour tout ce qu'on a déjà reçu. Moi, souvent, j'aimerais juste, après le moment de louange, on s'arrête et puis on prenne un bon moment pour méditer à ce qu'on a reçu. Puis ça suffit largement. Mais comme on aime les traditions, on va continuer. Peut-être tu peux réfléchir pour une prochaine fois, David, à aller un peu plus loin encore, un culte à l'armure médiévale, un truc... tous avec la croix et l'épée. Enfin, ouais, aussi, ouais. Voilà. Pour ceux qui étaient là, les deux premiers dimanches de janvier, j'avais partagé sur être connecté avec Dieu, un esprit en vérité. Je crois que c'est un bon moment pour revoir nos classiques. Et puis j'aimerais continuer d'une certaine façon ce matin avec quelque chose d'autre, mais qui va dans le même sens, à partir de ce verset de Jérémie. Jérémie, le prophète là, qui a eu une vie très difficile, très compliquée, vous savez. Hein, tout le monde était contre lui. Puis il n'a jamais rien vu de bien pratiquement dans toute sa vie, mais ça ne fait rien, il a continué. Mais à un moment, il fait ce reproche au peuple d'Israël. Jérémie 2,13, « Mon peuple a commis un double mal ou deux péchés » dans certaines traductions. Hein. Donc 1 et 2. Jusque-là, les maths, j'arrive plus loin, j'arrive pas, mais 1 et 2, j'arrive encore. « Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, je ne sais pas si c'est des images qui vous parlent beaucoup, parce que ici, c'est quand même un pays où l'eau, ce n'est pas un problème. Quoi. Si c'est un problème, des fois, il y en a trop. Hein. À part cet été où il a manqué un petit peu, mais c'est vraiment exceptionnel. Quoi. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France où l'eau, c'est un problème tout le temps. On en cherche. Hein. Mon père a un jardin. 8 mois de l'année, il ne peut pas prendre une journée de congé parce que matin, midi et soir, il doit arroser son jardin. Hein. Donc l'eau, c'est quelque chose de très important. Et Jérémie a écrit dans un contexte géographique encore plus chaud et encore plus sec, hein, où l'eau était très très importante, sans eau on ne fait rien pousser. Quoi. Et c'est vrai que c'est, ici c'est bizarre, moi, quand je vois des pelouses ici sans asperceur, je me dis mais au début, hein, c'est drôle, hein, mais non, ici il y a de la mousse parce qu'il n'y a pas assez de soleil, mais l'eau c'est pas un souci. Quoi. D'accord. Mais donc pensez à ce contexte-là, hein, quand il donne cette image-là, si ce que vous avez planté n'est pas arrosé régulièrement, n'est pas irrigué, ce n'est pas l'eau du ciel qui va faire pousser les choses, il n'y en a pas assez. Quoi. Et donc là, il leur dit, vous avez fait deux choses qui vont mal, quoi. Deux choses qui ne sont pas bonnes. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Alors c'est facile de mettre ça en lien avec le Nouveau Testament. Hein. Jésus qui dit, je suis la source d'eau vive, et puis je suis celui de qui jaillit l'eau. Et si vous me recevez, que mon esprit est en vous, alors vous aussi, vous aurez cette eau en vous qui va couler. Et puis, le deuxième point, c'est que vous avez construit des citernes, donc des réserves pour l'eau. Hein, et en plus de ça, elles sont crevassées. Donc, l'eau s'en va. Quoi, hein. Et puis, ça aussi, c'est peut-être une image que vous ne connaissez pas, mais moi, je sais, dans le mas de mes grands-parents, il y avait une citerne pour l'eau, pour arroser, donc on récupérait l'eau de pluie, parce qu'il pleut très peu, mais quand il pleut beaucoup. Hein. Donc il y a beaucoup d'eau qui peut arriver d'un coup, presque autant qu'ici en une année, mais ça tombe ben, deux fois. Hein, donc quand ça tombe. Quoi. Ce qui fait qu'on peut remplir des grosses citernes, mais avec le temps chaud, moi je me rappelle de ces citernes, alors c'était pour l'arrosage, c'était pas un souci, hein, mais il y avait bien quelques centimètres d'algues dessus, les araignées d'eau, les petites bestioles... C'est pas de l'eau très sympathique. Hein. C'est pas l'eau, on aime puiser le truc dedans. Ah, bon verre bien frais. Hein. C'est pas de celle qu'on pouvait mettre dans le pastis. C'était vraiment l'eau pour l'arrosage. Alors, ça c'est une chose. Mais en plus, les citernes, elles étaient crevassées. Ce qui fait que même cette eau-là, ben, elle partait. Quoi. Hein. Alors, de quoi ça nous parle pour nos propres vies? Je crois qu'on a tellement de mal, nous, en tant qu'êtres humains, à ne pas s'accrocher aux formes dans lesquelles on découvre les choses. Hein. J'aimais l'introduction de David. Moi, je suis aussi très éclectique. J'ai beaucoup écouté cette semaine un musicien chrétien que j'aime beaucoup, qui est âgé maintenant et qui est devenu prêtre dans l'Église catholique aux États-Unis, qui fait de la très très belle musique, Terry Talbot, si vous dites quelque chose, mais dans ce style-là, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. J'ai beaucoup aimé ça. Mais on est tous pareils, quel que soit notre arrière-plan culturel, où qu'on ait vécu. Hein, le moment, l'endroit, la forme dans lequel on a découvert quelque chose, on décide que c'est comme ça. Et puis, on veut le préserver. Or, un des principes de vie avec Jésus-Christ, c'est que nous sommes en route, nous sommes des voyageurs, et que Dieu n'aime pas que les choses se passent deux fois de la même façon. Un tout petit coup d'œil dans la création, tous des empreintes différentes, des fleurs de couleurs différentes, des goûts différents. C'est jamais pareil. C'est toujours pareil, mais c'est jamais pareil. Il y a des principes, mais c'est toujours différent. Et Dieu est comme ça. Et notre marche avec lui doit être comme ça. Mais depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où nous avons perdu la sécurité, une des choses que l'être humain cherche, c'est être en sécurité. Et pour ça, on veut contrôler les choses. On veut avoir les provisions, pas juste pour aujourd'hui, mais pour demain, après-demain et dans un mois. Dans la prière du Notre Père que David nous a lue, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, hein, dans le passage qui est justement une demande, qui est une toute petite partie de la prière, parce que la prière, c'est pas demander, c'est écouter Dieu et dialoguer avec lui, puis on peut aussi demander, mais c'est pas le but principal. Mais donne-nous notre pain de ce jour, ou notre pain quotidien, hein, donne-nous certaines traductions, pour que ça en mette deux couches, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Hein. Mais c'est très important. Nous, on aimerait que Jésus nous donne aujourd'hui le pain pour les 3 jours à venir ou pour les 6 mois à venir. Tant pis s'il est un peu rassis. Mais si au moins je savais que j'ai un mois d'avance, je me sentirais mieux. Hein? On est comme ça en tant qu'être humain. Pendant les 14 ou 15 ans où on a vécu en Roumanie, où on n'avait aucun salaire, aucun soutien officiel, rien du tout, Dieu a toujours pourvu, mais il pourvoyait toujours, à mon avis, avec 24 heures de retard, quoi. Et au bout de quelques années qu'on vivait comme ça, bon, on était habitué, hein, mais je disais à Dieu, mais vu que de toute façon, tu pourvois toujours, il n'y aurait pas moyen de juste décaler. Parce que ça fait 10 ans que ça dure, donc je sais que tu vas pourvoir. Juste décaler de 3 jours. Bah, on ne demande même pas un mois, hein, 3 jours. Qu'on ait toujours 3 jours devant nous où on sait qu'on aura ce qu'il faut, quoi. Ça serait reposant. Jusqu'au jour où j'ai entendu Dieu rire et il m'a dit... En fait, tu me pries pour que je te donne les moyens de ne plus avoir besoin de me prier tous les jours. Mais oui, hein. Et puis j'ai réalisé, c'est comme si mes enfants me disaient, écoute papa, venir chaque samedi chercher l'argent de poche, ça me gonfle un peu. Tu pourrais me le donner une fois en début d'année, j'aurais pas besoin de te voir toutes les semaines. Ça me fait plaisir, mon fils. Hein? Mais c'est, si on réfléchit, c'est souvent ce qu'on fait avec Dieu. Hein? Parce que ben, on a tellement peur, et puis on est tellement stupide parce qu'on s'imagine que parce qu'on a un contrat à durée déterminée, parce qu'on a une assurance, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça, on est en sécurité. Dans le monde où on vit particulièrement, c'est assez incroyable, quoi. Hein? Demain, le cours du franc, la bourse, le machin peut s'écrouler, on peut être renvoyé, il y a ici un tremblement de terre, des terroristes, une bombe, j'en sais rien, un tsunami, une centrale nucléaire. On n'est rien moins qu'en sécurité sur cette terre, nulle part, quoi. C'est vrai, dans la vallée de Tavannes, c'est un peu mieux qu'ailleurs. Je suis d'accord. Hein? Le risque terroriste est plus bas, les centrales nucléaires, il n'est pas très loin, quand même. Bon. Mais quand même, et Dieu dit... Vous m'abandonnez, moi, la source d'eau vive, et vous passez votre temps à creuser des citernes. Le problème d'une citerne, c'est qu'une fois que vous l'avez, il faut s'en occuper. Il faut la nettoyer, parce que ben, y a des algues, c'est sale. Elle perd. Il faut boucher les fuites. Et au bout d'un moment, vous ne vivez plus pour l'eau, pour boire. Hein. Vous vivez pour entretenir la citerne. Que je dis vous, je, hein, nous, hein. On est tous comme ça. C'est pour ça que ce qu'on appelle les églises, c'est tellement épuisant souvent, parce qu'en fait, le responsable ou les responsables de l'église ont besoin de plein de gens à disposition pour l'entretien de la citerne. Et on appelle ça le service chrétien. C'est triste. Le but de la vie chrétienne, c'est se lever le matin et de se dire, vu que je suis en voyage et qu'en plus la source, elle a des pieds, où se trouve l'eau fraîche ce matin ? Et je vais marcher lentement jusqu'à ce que je la trouve. Ça, c'est le but de la vie chrétienne tous les jours. Alors que nous, immédiatement, quand on trouve la source, on se dit, bon, maintenant je sais où elle est. Alors, avec des tuyaux, une pompe, une différence de niveau. Et là, les ingénieurs se mettent au travail. Alors, dans un pays comme la Suisse, c'est génial. On fait de suite 12 comités avec des équipes. Alors, l'entretien de la citerne, le mois de janvier, c'est eux. Le mois de février, c'est eux. Là, on changerait l'eau tous les temps parce qu'avant qu'elle devienne, on mettrait des poissons dedans pour l'écologie, pour les moustiques, les malheurs. Et on a oublié que le but, c'était de marcher tranquillement jusqu'à la source pour boire. Parce que Jésus nous a dit, de l'eau, il y en aura toujours. À la source que je suis. Quand il rencontre la femme samaritaine, et là aussi dans un contexte d'un pays où l'eau, elle est rare, puis il avait soif, parce qu'il était humain comme nous, il avait marché au soleil, il avait soif. Cette femme vient, lui, il n'a pas de seau, il n'a pas de corde pour puiser, donc il lui demande de l'eau, et puis il engage la conversation, vous connaissez l'histoire, je ne vous la refais pas. Mais au bon moment, il lui dit, si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire. Et, ah, super, immédiatement, elle pense, waouh, ce gars a inventé l'eau courante, mais dans le sens l'eau courante à la maison. Le robinet, on ouvre, tchou, 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 j'ai l'eau chez moi. Ça, c'est ce qu'on rêve tous. Plus un contrat avec le fournisseur d'eau pour être sûr qu'il y aura toujours de l'eau. Et Jésus dit, non, je suis la source d'eau vive. Et puis, je suis vivant, alors je me déplace, je bouge. Il y a toujours de l'eau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a un verset dans les, je crois que c'est dans les psaumes, qui m'a toujours amusé quand j'étais gamin, que je tombais dessus. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Pourquoi il y a des versets comme ça dans la Bible, quoi ? C'est comme si on disait le Sahara est plein de sable, quoi. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Puis après, j'ai réalisé, ouais, on est tous angoissés que l'eau s'arrête, parce qu'on ne la contrôle pas. On aime ce qu'on peut contrôler. Et Dieu veut nous apprendre à vivre dans sa dépendance. Et puis, comme je disais, on est tous pareils. J'ai rencontré Dieu à tel endroit, avec des chants comme ça, avec un pasteur comme ça. Alors, trouver Dieu, ça se passe comme ça. Ou au contraire, ailleurs. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions. Même les gens qui passent leur vie à essayer d'éviter les formes, c'est une forme, essayer d'éviter les formes, c'est la même chose. Moi, j'ai connu des gens qui voulaient jamais faire les choses deux fois pareil parce que ça allait devenir une forme. Mais du coup, leur forme, c'était jamais faire les choses deux fois pareil. Ça n'est juste une autre. C'est pareil. Dieu se trouve dans toutes les formes et puis il est dans aucune. Il est Dieu. C'est pour ça qu'effectivement, ça m'amusait quand tu parlais du signe de la croix, quand on vivait en Roumanie et puis qu'on avait des gens forcément orthodoxes qu'on rencontrait, puis c'était une de leurs questions. Mais alors... Le signe de la croix, parce qu'en plus, il faut aller à l'envers par rapport aux catholiques. C'est gauche à droite, droite à gauche. Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Puis je leur disais, mais ça, ce n'est pas une bonne question. Pourquoi vous le faites ? Si quand vous le faites, ça vous rappelle ce que Christ a fait sur la croix ou ce qu'a dit David, ou... faites-le. Faites-le 10 fois par jour. Faites-le 100 fois par jour. C'est génial. Si vous le faites par superstition, parce que vous imaginez que vous ne ferez pas renverser par une voiture... Peut-être il faut réfléchir à évoluer vers autre chose. Mais plutôt que de l'arrêter, mettez-y du sens dedans. Les formes ne sont jamais un problème s'il y a de l'eau vive qui coule dedans. Simplement, Dieu ne veut pas des citernes, parce que de suite il faut s'occuper de l'entretien, et ça bouffe nos vies complètement. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite fable, je l'ai entendue plusieurs fois. C'est l'histoire d'un homme qui vit dans une grande ville, et puis il décide, je veux me consacrer à Dieu et à la prière. Dans une ville, il y a trop de bruit, puis travailler, tout ça, j'ai pas le temps. Donc, il parle aux habitants de la ville, il dit, si vous êtes d'accord, je vais monter sur la montagne, là, et puis je vais me retirer pour prier, puis je prierai aussi pour vous, etc. Juste, si je fais ça, je vais pas travailler, je vais pas manger. Est-ce que vous pouvez m'amener un peu de blé toutes les semaines, et puis je ferai mon pain, et puis ça ira. Les habitants de la ville, ouais, pas de souci. Alors, il monte sur sa montagne, et puis toutes les semaines, on lui livre du blé. Puis au bout de quelques semaines, il dit aux gens de la ville qui amènent le blé, vous savez, j'ai quand même un souci, c'est qu'il y a des souris qui mangent mon blé. Est-ce que vous pourriez m'amener un chat ? Non, pas de problème, ils amènent le chat. 2 semaines après, le gars qui s'était retiré pour prier dit aux gens qui amènent le blé, le problème c'est que maintenant que j'ai un chat, il me faudrait du lait. Pas de problème, on t'amène du blé et du lait. Puis au bout de quelques temps, il dit, mais bon, le lait que vous m'amenez, il ne tient pas pour la semaine, il tourne. Bon d'accord, le chat peut manger du fromage, mais... Ça serait plus simple si j'avais une vache. Pas de problème, on t'amène une vache. Alors, ils amènent une vache, et puis ils disent, ouais, mais ma vache, il faut qu'elle mange. Eh bien, on va, je sais pas, on pourrait défricher là autour, et puis mettre des champs, et puis... Oui, mais maintenant, quand je ramasse l'herbe pour l'hiver, et puis il me faudrait une grange. Et puis vous voyez la fin de l'histoire. Ben finalement, le gars, il gérait une ville. C'est exactement comme ça avec Dieu. On rencontre Christ et il nous dit, laisse tes affaires, là, suis-moi. Vous savez, toutes ces histoires dans les évangiles, soit elles nous font peur, soit on voudrait les vivre littéralement. Quand Jésus dit, laisse tout et suis-moi. Alors, il y a quelques cas historiques qui existent, ça peut arriver, où effectivement, on va tout laisser matériellement et le suivre, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Laisse tout et suis-moi, c'est dans ce sens profond et spirituel. Laisse tout chaque jour et suis-moi de nouveau. Viens me redécouvrir aujourd'hui. Peu importe si ça ressemble à hier ou pas, ou à demain ou non. Viens. Je suis la source d'eau vive, il y a de l'eau fraîche. Fais pas des provisions, ça sert à rien. Ça pourrit, c'est vrai, pour arroser les plantes, mais tu as besoin de boire tous les jours. Et je suis la source d'eau vive. Et on doit aller à toi. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à cette notion essentielle. En tant que chrétien, on est étranger et voyageur sur terre, toujours en déplacement. Et là, je trouve, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une grosse difficulté, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre une espèce d'ascétisme qui est malsain, où non, on ne veut rien de terrestre, on n'est même plus des êtres humains, on n'a plus de corps, on est des esprits, c'est stupide, on a un corps, on a des besoins physiques, Dieu a voulu qu'on apprécie ces choses-là, il a fait la terre belle pour qu'on l'apprécie, il nous a donné la famille, l'amitié, et donc ça c'est une réalité, et en même temps, on est de passage. On en profite en passant et surtout au jour le jour, pas pour s'y installer pour l'éternité. Pour l'éternité, on a autre chose. Là, on est en transit. Et je trouve garder l'équilibre entre les deux, je ne sais pas pour vous, moi j'ai beaucoup de mal, je bascule toujours un peu d'un côté, un peu de l'autre. Et en pensant à ça, j'ai repensé à une petite vidéo que j'ai vue sur Facebook, que Thierry va nous montrer maintenant. Et je trouve que ça symbolise bien la marche chrétienne entre ces deux extrêmes. C'est très court, mais je trouve que c'est très très parlant, vous allez voir. Mais c'est à ça que je pensais, je me disais, ouais, je me sens souvent comme ça. Et puis, en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que vous imaginez, là, le bonhomme, là, il ne faut pas qu'il ait un chargement plus que ce qu'il a besoin sur le dos. Parce que sinon, ça devient encore plus dangereux, il va tomber d'un côté ou de l'autre. Alors pour nous, on doit se rappeler ça. L'eau fraîche, elle est disponible tous les jours. Cherchez Christ, passez du temps avec lui. C'est le but de nos vies chrétiennes. Ne dévions pas sur l'entretien de citernes. Alors encore une fois, il y a un minimum. On est content ce matin que la salle soit chauffée ici, qu'elle soit propre. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui le font. Et ça, c'est pour éviter l'extrême d'un côté. Et puis, ça veut dire qu'il y a un programme pour le faire. Et puis, il faut continuer. Vous avez un programme qui est imprimé pour savoir quand on se retrouve. Et puis, on savait que c'était David qui s'occupait des chants ce matin. Il y a une organisation. Il n'y a aucun problème avec ça, ça n'empêche pas du tout l'action de Dieu, du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de dire, mais on ne va plus faire de programme, on n'a plus de local. Quand le Saint-Esprit nous dira de nous retrouver tous ensemble quelque part, on le fera. J'ai essayé quand j'étais jeune. Je vous promets qu'on ne se rencontre pas souvent comme ça. On a essayé, tout ce qui se peut s'essayer dans ce domaine-là, je crois que j'ai essayé. Mais en même temps, les formes sont là pour nous, les programmes sont là pour nous, c'est nous qui les faisons. Ils sont nos serviteurs, pas nos maîtres. Le programme nous gêne, on jette le programme. Le programme ne va plus, on le change. Le programme n'est pas adapté, on en fait un autre. Il en faut un. Mais il dépend de nous, ce n'est pas Dieu. Et Dieu peut être dans un programme, et Dieu est dans un manque de programme. Et Dieu est dans le programme qui marche bien, et dans le programme qui ne marche pas bien. Et Dieu est Dieu, il est partout. Mais simplement pour nous, on doit avoir cette attitude. Seigneur, aujourd'hui, elle est où la source? Je ne sais pas. Parce que vu que je suis en voyage et toi aussi, c'est pas comme hier. Mais peut-être ça ressemble, peut-être pas. Et on cherche. Et puis, perdons pas du temps avec construction de citernes en tout genre, à 2 étages, à 12 étages, avec ascenseur, avec parking, sans parking. Encore une fois, s'il faut, on le fait. Mais on sait que c'est provisoire. C'est pas pour rien. Faites un survol, amusez-vous-y. Tous les gens que Dieu a employés dans la Bible, tous, ont dû quitter leur pays à un moment ou à un autre, vivre ailleurs, pour intégrer cette idée, je suis de passage. Oui, je suis là, oui, j'ai quelque chose à faire. Et ça veut dire que je dois m'arrêter. Ok, j'ai compris. On est organisé chez nous à Edis. Si le pasteur n'a pas fini de parler, il y a une petite cloche et après il y a la lumière rouge. Ah, pardon Thierry, merci. Mais je note le rappel quand même. Je parlais avec quelqu'un qui s'occupait des personnes âgées cette semaine, la semaine dernière plutôt, et puis qui répondait à une famille qui était inquiète parce que leur maman, qui est très âgée, mangeait moins et puis avait moins de goût pour faire les choses, etc. quoi. Puis cette dame, qui est une professionnelle, disait, mais vous savez, c'est normal. Votre maman, tôt ou tard, elle va quitter cette terre. Et ce n'est pas une chrétienne, la dame qui expliquait ça. Hein. Donc, elle va quitter ce corps. Donc, ben, elle commence à moins le nourrir, parce que c'est quelque chose de naturel. Et nous, on est tellement avec cette idée que le but de la vie, c'est d'avoir 20 ans toute la vie et d'être éternel sur terre et toujours à 20 ans. Je ne sais pas pour vous, pourtant j'ai aimé avoir 20 ans. Hein. Mais cette idée-là, ça serait plus proche de l'enfer que du paradis, quoi. Toujours coincé à 20 ans pour l'éternité, sans évoluer. Alors, avoir les ressources physiques que j'avais à 20 ans aujourd'hui, je change tout de suite, bien sûr, si c'est possible. Hein. Mais pas rester coincé dans un âge. Et on voudrait nous faire croire que la seule période de la vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est être jeune, rester jeune, toujours pareil, sans évoluer. Toujours, je caricature un peu, hein, mais avec un casque sur les oreilles, sans réfléchir. Ouais, c'est bien, mais c'est bien d'avancer, de continuer, parce qu'on est en transit, et puis on apprécie chaque tranche de vie. C'est normal qu'à 15 ans, on apprécie d'avoir 15 ans, enfin ça devrait, à 20 d'avoir 20, à 30 d'avoir 30, et puis, j'ai pas encore 80, non, mais de les avoir, et plus si on y arrive, mais avec cette idée, ça fait partie du trajet, et puis c'est pas, ah, on monte jusqu'à un certain moment, puis on redescend, vous savez cette idée ? Sauf que plus on vieillit, plus l'endroit où on redescend, on le repousse en fait. Quoi. Avant, je pensais qu'on redescendait après 25 ans. Maintenant, je suis sûr que c'est 52. Mais l'an prochain, je pense que ça serait... Il y aura une réforme, ça sera 53. On pousse toujours, mais non, on est en déplacement, on est en voyage, étranger et voyageur, et avec cet équilibre. Paul qui dit, ben voilà, j'ai appris à être dans la richesse, j'ai appris à être dans la pauvreté. D'un côté, il dit, ouais, j'aimerais bien partir et être à la maison maintenant avec le Seigneur. Ben, il dit ça, il est en prison, il est enchaîné, il n'a pas à manger, il en a marre, on lui tape dessus, les églises vont mal. Ouais, il a envie de partir au ciel. Mais dès qu'il sort, ah, j'aimerais bien encore vivre un peu pour aller. On est toujours comme ça entre les deux, et c'est bien. Hein. Ma grand-maman, qui est décédée à 97 ans, parce qu'en fait, elle avait une prothèse qu'elle avait fait changer à 70 ans, puis normalement, elle s'est fait pour durer toute la vie, mais elle a vécu tellement âgée qu'elle a usé la prothèse. Puis à 97 ans, elle a dit, moi, je ne veux pas continuer de vivre sans pouvoir marcher, alors vous me changez la prothèse. Puis on dit, mais vous savez que vous risquez de mourir pendant l'opération à 97 ans, quand même. Elle dit, oui, je sais, mais ou je vis en marchant, ou je m'en vais. Elle était chrétienne. Hein. Et puis, ce qui était rigolo, ben... Les semaines qui ont précédé son opération, alors d'un côté, elle avait pris rendez-vous avec le peintre pour faire retapisser sa maison, plein de choses comme ça, et puis elle avait convoqué son pasteur en disant, bon, si je ne me réveille pas, je veux ce chant, je veux que lui parle, lui non, parce que je ne l'aime pas. Ben. Elle avait fait le programme de sa cérémonie de funérailles, hein, et puis elle avait pris des rendez-vous pour retaper son appartement. Et je trouvais ça génial, parce que ça, c'est la réalité, hein. Eh bien, on ne sait jamais si le Seigneur veut que je vive une petite dizaine d'années de plus. Elle a 97 ans. Quoi. Mais en même temps, ouais, mais bon, maintenant, je n'ai plus rien à faire ici, je serais contente de partir. Elle avait les deux langages. Et j'étais déjà assez vieux, on va dire, pour comprendre que c'est comme ça. Quoi. Il y avait les deux. Et puis, en fait, l'opération a marché, mais elle a fait une embolie après, elle est partie à la maison. Ce qui était très bien pour elle et pour son entourage. Parce qu'elle avait toujours vécu sur ses pieds, seule, chez elle, debout, puis ça aurait été très compliqué après, si elle n'avait pas pu récupérer. Mais je crois que nous, voilà, c'est comme cette petite vidéo, j'ai passé ça parce que les images, ça reste, hein, vous oublierez ce que j'ai dit, mais vous vous rappellerez de ces images-là. Et puis, ben, on est toujours entre, voilà, étrangers, voyageurs sur cette terre, hein, et on cherche tous les jours de l'eau fraîche, hein, notre pain quotidien, pas le pain pour dans 6 mois, pas rester sur le pain rassis il y a 30 ans, du pain frais, de l'eau fraîche tous les jours, un peu d'amour. Et puis, et puis on avance comme ça. Seigneur, merci parce que tu es la source d'eau vive et tu as mis ta vie en nous. Et ça, c'est extraordinaire. Aide-nous à ne pas perdre notre temps à construire des citernes, des moyens pour transporter l'eau, pour la conserver. Juste à apprendre à vivre par la foi, c'est-à-dire te faire confiance chaque jour, de boire tout ce que nous avons parce que demain il y en aura encore. De manger tout ce que tu nous donnes parce que demain il y en aura encore. Aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, Seigneur, tu seras avec nous. Et ça, c'est fantastique. Que ça puisse devenir notre façon de vivre, même si ça paraît en contradiction. Heureux de vivre sur cette terre et conscient que nous sommes de passage et voyageurs. Que nous puissions partager à la fois notre attachement à ce monde que tu nous as confié et notre certitude et notre espérance de ce monde à venir vers lequel nous sommes en route et pour lequel nous sommes en préparation. Merci pour toutes ces choses, merci pour les frères et sœurs, parce qu'on peut se faire du bien ensemble, se réjouir ensemble, pleurer ensemble aussi. Et conduis-nous dans le reste de ce moment, de cette journée, de cette semaine, Seigneur Dieu.